Voici le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, mensonge, duplicité, rupture majeure de confiance. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, n'a pas de mots assez durs pour qualifier la crise diplomatique avec les États-Unis et l'Australie. On y revient après les autres titres, Christelle.
Ce soir, il n'en restera que deux. On connaîtra les finalistes de la primaire écologiste à l'issue de 3 jours de vote. L'écologie qui a été conspuée hier dans les rassemblements de chasseurs au nom d'une certaine idée de la ruralité. Abdelaziz Bouteflika, enterré tout à l'heure à Alger, près de ses prédécesseurs, mais en toute discrétion. Le pouvoir est pressé de tourner la page. Un terrain envahi, un match de foot interrompu, 6 blessés légers, le derby nordiste Lens-Lille a tourné au coup de poing.
Et puis notre invité Karine, à 8h20, ce sera l'essayiste et romancière Titiou Lecoq. Son dernier livre, Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a-t-elle effacé les femmes, sort aux éditions de l'Iconoclaste.
France Inter. Il ne décolère pas et ses propos n'ont rien de diplomatique. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, est revenu hier soir sur France 2 sur ce qu'il appelle la crise grave provoquée par l'annulation de la part de l'Australie du contrat du siècle, cette commande de 12 sous-marins. Le rappel des ambassadeurs aux États-Unis et en Australie est une mesure inédite et grave à la hauteur de l'affront fait à la France. Jean-Yves Le Drian.
Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance. Il y a eu mépris. Ça ne va pas entre nous. Ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Et à ce moment-là, il y a d'abord un aspect symbolique. On rappelle nos ambassadeurs pour essayer de comprendre, mais pour en même temps montrer à nos pays anciennement partenaires que nous avons un très fort mécontentement, qu'il y a vraiment une crise grave entre nous. Et puis c'est aussi, lorsqu'ils vont venir, le moyen de réévaluer notre position pour défendre nos intérêts à la fois en Australie et aux États-Unis. Le fait que pour la première fois dans l'histoire des relations entre les États-Unis et la France, on rappelle notre ambassadeur pour consultation est un acte politique lourd qui signifie la force de la crise qui existe aujourd'hui entre nos deux pays, aussi avec l'Australie. Avec la Grande-Bretagne, il n'y a pas besoin. On connaît leur opportunisme permanent. Donc ce n'est pas la peine de faire venir notre ambassadrice pour qu'elle nous l'explique. En fait, en plus, la Grande-Bretagne dans cette affaire, c'est quand même un peu la cinquième roue du carrosse.
Et Jean-Yves Le Drian sur France 2 a ajouté que cette crise pèserait sur la définition du nouveau concept stratégique de l'OTAN. Toutefois, il n'est pas allé jusqu'à évoquer une sortie de l'Alliance Atlantique. En Algérie, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika sera inhumé en début d'après-midi au cimetière d'El Alia, là où reposent ses prédécesseurs, ainsi que les figures de la guerre d'indépendance. Des funérailles à minima, compte tenu de la figure controversée du défunt et du risque potentiel de manifestation. Christian Chéneau.
Jusque dans la tombe, Abdelaziz Bouteflika aura embarrassé le pouvoir algérien. Quel dispositif protocolaire mettre en place pour ses obsèques? Boumediene et Ben Bella ont eu droit à un hommage national. Chassé du pouvoir par la rue et l'armée en avril 2019, Bouteflika sera enterré dans la discrétion et la sobriété. Les autorités ont opté pour un service minimal. Le corps de l'ancien président sera exposé à la maison du peuple avant d'être enterré au carré des martyrs du cimetière d'El Alia. Après la prière de midi, son frère Saïd, actuellement en prison, a été autorisé à assister à l'enterrement. Des officiels algériens seront présents ainsi que les ambassadeurs des pays étrangers. Le pouvoir ne veut pas que la cérémonie des obsèques de l'ancien président donne lieu à des manifestations hostiles au régime et souhaite tourner la page Bouteflika le plus rapidement possible. Les Algériens, eux, sont partagés sur leur ancien président. Certains lui sont reconnaissants d'avoir mis fin à la guerre civile. D'autres lui reprochent d'avoir mis sur pied un système de corruption et de népotisme qui a finalement mené l'Algérie à la ruine.
Chez nous.
Et une question en politique en France. Quels seront donc les finalistes chez les écologistes?
Après 3 jours de vote électronique à la primaire de la part de 120 000 personnes, un record, on saura à 17h30 quels sont les 2 qualifiés. Les débats sont restés sobres entre les candidats pour ne pas insulter l'avenir. Et sauf raz-de-marée pour un candidat, il devrait y avoir un second tour à partir du 25 septembre. Laurence Perron.
Les écolos n'en sont pas peu fiers, plus de 122 000 votants, c'est une primaire qui en impose. Près de 10 fois plus aussi que le nombre de leurs militants officiels. C'est donc, selon eux, que l'appétit d'une écologie politique grandit. La difficulté maintenant est de savoir quelle écologie politique va sortir des urnes. Celle radicale et décroissante de Delphine Bateau, même si, et les débats l'ont bien révélé, la croissance capitaliste est réfutée par l'ensemble des candidats, y compris par le centriste Jean-Marc Governatori. La présidente de Génération Écologie a toutefois impressionné les militants par la rigueur de son argumentation. Plus proche des cadres du parti, l'écologie sociale du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui souhaite un ISF climatique. Son programme est clairement insoumis, compatible, tout comme celui de l'écoféministe Sandrine Rousseau. L'universitaire qui a marqué des points en débat et sur les réseaux sociaux, sans toutefois rattraper Yannick Jadot sur le terrain de la notoriété. L'eurodéputé a fait une campagne de candidat à la présidentielle. Son entourage veut croire que l'élargissement du corps électoral au-delà des militants traditionnels lui sera favorable. Verdict 17h30, pile aujourd'hui.
Les écologistes dans la ligne de mire des chasseurs et des défenseurs de la ruralité, ils ont été conspués hier par plusieurs dizaines de milliers de personnes qui avaient revêtu leur gilet orange dans une demi-douzaine de villes de la Bretagne au sud-ouest. Les chasseurs protestaient contre l'interdiction de la chasse traditionnelle aux oiseaux. Le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schran, a défilé lui à Amiens et il a réclamé la création d'un ministère de la ruralité.
On a une écologie qui s'accapare beaucoup trop de choses. On se retrouve avec des ministres qui nous aiment pas, qui sont écolos. C'est pas possible. Qui est-ce qui a un ministère qui déteste son corporatisme? Personne en France, mais nous on l'a. Nous on fout la paix à tout le monde, on demande juste qu'on nous foute la paix. Foutons la paix aux chasseurs, aux pêcheurs, aux agriculteurs. Laissons les gens respirer, arrêtons ce délire de tout interdire, de tout vouloir changer. Il y a des gens qui ne demandent rien à personne, qui sont heureux dans leur territoire, dans leur passion, dans leur choix de vie, dans leurs valeurs, qu'on leur foute la paix. C'est tout ce qu'on demande. Aujourd'hui on maltraite les gens qui ont ces valeurs rurales et c'est inadmissible. Ça peut plus durer, ça finira mal de toute façon. Ah mais bien sûr, on a nos enfants d'insulter, on nous crache dessus dans la rue, et au nom de quoi on a des activités légales? On est français, on paye nos impôts comme tout le monde, on n'emmerde personne, on ne demande rien. Non, c'est vraiment le ras-le-bol. On lâche rien, on reste unis, et on va gagner parce que c'est nous qui avons raison.
Oui, les chrades au micro d'Alexandre Lepère de France Bleu Picardie. Au PS, il n'y aura pas de primaire. Le candidat qui, selon toute probabilité, sera une candidate, Anne Hidalgo, devrait être désigné par un vote interne des militants le 24 octobre. Olivier Faure, réélu à la tête du Parti Socialiste, ne veut pas, dit-il, d'un processus qui pourrait conduire à la surenchère. Quand va-t-on retrouver ce qu'Emmanuel Macron appelle l'art de vivre à la française? Olivier Véran, le ministre de la Santé, se montre optimiste dans les colonnes du Parisien ce matin. Nous pourrions alléger progressivement les restrictions face au Covid, là où le virus circule le moins, puis partout, il pourrait inclure le pass sanitaire. Mais Olivier Véran se garde de donner une date. Le taux d'incidence est tombé à 83 cas pour 100 000 habitants, en baisse de 25% sur les deux dernières semaines.
En football, ce devait être une fête, un derby nordiste que les Lensois, fraîchement revenus en Ligue 1, allaient célébrer, mais...
Mais les supporters Lensois et Lillois se sont cherchés, affrontement, envahissement du terrain, bilan cible et c'est léger, deux personnes interpellé Alexandre Vaux.
Une fois les joueurs et les staffs rentrés au vestiaire, des supporters lillois enjambent les grilles qui les séparent des Lensois pour en découdre. Une centaine de supporters Lensois venus d'une autre tribune traversent alors le terrain pour les défendre. Arnaud Pouille est le directeur général du RC Lens.
Il y a eu quelques gestes qui ont été faits aux poudres et une réaction qui est dommageable. Malheureusement, parce que ce genre de rencontre doit être une fête au niveau de la région. Là, c'est l'image de la région qui est touchée par ce qui s'est passé. Bien entendu, tout acte de violence est condamné par le RC Lens.
Les stadiers sont débordés, des sièges sont lancés des deux côté des grilles qui séparent les supporters. Les CRS doivent intervenir. Bilan 6 blessés et 2 personnes interpellées. Après un retard d'une demi-heure, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est finalement donné avec des dizaines de CRS dans le stade au pied des deux tribunes concernées. Olivier venu avec son fils et lui consterné.
Ça fait peur sans faire peur. C'est des imbéciles qui font n'importe quoi en fait. C'est honteux de voir ça. On est là pour le spectacle et pour avoir une bonne ambiance et puis c'est pas normal de voir ça. Quoi.
Il n'y aura pas d'autres débordements à signaler, mais le directeur général du RC Lens craint des sanctions rapides contre son club. Arnaud Pouille regrette aussi le tifo avec ce message « Lillois merda » déployé avant le coup d'envoi.
À noter aussi hier soir la victoire de Bordeaux à Saint-Etienne 2-1. Suite de la 6e journée de Ligue 1 tout à l'heure avec notamment un Messi au Parc des Princes. 40 jours après sa signature, l'Argentin sextuple Ballon d'Or foulera enfin la pelouse du Parc des Princes en majesté, espèrent les supporters. Ils sont rentrés sur la terre ferme après 3 jours en apesanteur. Les 4 touristes de l'espace de SpaceX sont atterris sains et saufs en Floride. À 590 km au-dessus de nos têtes, ils ont recueilli des données médicales pour mieux comprendre la pesanteur. En réalité, ils ont surtout profité de la vue à raison de 15 tours du monde par jour. Ici, vous pouvez toujours profiter des joyaux du patrimoine pour rêver. Et ça, ça ne coûte rien.
C'était le journal de Christelle Robière. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
avec un ciel souvent menaçant, Jean-Michel Golinski.
Ah, exactement, avec des averses à prévoir entre la Bretagne et les Pyrénées et des pluies plus fortes et souvent durables de la Normandie au sud de l'Île-de-France, sur le centre Val-de-Loire et de la Bourgogne-Franche-Comté à Rhône-Alpes, avec même de la neige à partir de 2000 mètres sur les Alpes du Nord. Des Hauts-de-France à l'Alsace, on restera à l'écart malgré un ciel plus ou moins voilé, donc le temps va rester sec. Et puis autour de la Méditerranée, le soleil sera beaucoup plus vaillant, sauf ce matin sur la Corse, traversée par des cellules orageuses. Et puis le Mistral, la Tramontane et les rafales d'ouest sur la Corse seront sensibles, dans des températures qui vont se maintenir entre 23 et 24 degrés, du nord de la Seine à la frontière allemande, vers 26-28 autour de la Méditerranée. Mais sous les parapluies, il faudra se contenter de 20 degrés en moyenne.
Jean-Michel Golinski, Météo France.